on parle de livres pour parler de la rentrée hiver-printemps 2022 des éditions Boréal. Je joins Jean Bernier, qui est directeur de l'édition chez Boréal. Bonjour, M. Bernier.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien, merci. Vous?
Bien, merci.
Vous êtes arrivé chez Boréal en 1987, ça fait quand même un bail, 35 ans cette année, félicitations.
Ben, plus exactement 1990, le 10 janvier 1990.
OK, sur le site, on parle de 87.
Ah, ben écoutez, merci de me signaler.
Fais la correction.
Oui, absolument. Oui, alors, ça fait 32 ans, voilà.
Monsieur Bernier, qu'est-ce qui fait en sorte que vous restez toujours aux éditions du Boréal? Parce que plus de 30 ans pour un employé, c'est quand même admirable et c'est long.
C'est jamais pareil. Chaque livre est différent, chaque auteur est différent. Vous ne savez pas à quelle vitesse les saisons passent et à quelle vitesse les 32 ans ont passé.
Ah,
c'est
oui.
Toujours nouveau. Chaque saison est nouvelle, c'est des nouveaux livres. Il n'y a vraiment pas de routine, ça c'est sûr.
Et d'où vous vient votre goût pour les lettres, pour la littérature?
Toujours. J'ai toujours été, depuis que je sais lire, j'ai un livre à portée de la main, j'ai fait des études littéraires, mais au-delà de, même si c'était, ça n'avait pas été mon cheminement professionnel, j'aurais lu quand même. Vous savez la place que tiennent les livres dans une vie, et puis c'est un accompagnement essentiel au-delà de la relation professionnelle que j'ai avec les livres.
Alors, vous êtes comme un poisson dans l'eau.
Oui, j'ai cette chance.
Et
c'est la raison pourquoi j'ai pu rester 32 ans.
Oui. Et j'ai parcouru le dossier de presse concernant cette saison, hiver-printemps 2022. Il y a des romans jeunesse, des essais, de la poésie. Est-ce que vous faites un devoir de publier un certain nombre de titres pour chacun des genres littéraires?
Non, ce n'est pas si rigide que ça. Écoutez, nous, on est vraiment... Vous savez, un éditeur, c'est quelqu'un qui réagit. Nous ne sommes pas dans la création, nous sommes juste à côté, nous l'accompagnons. Donc, c'est vraiment... ce que les auteurs nous proposent. Nous sommes là pour les accompagner. Il n'y a pas de quota. C'est sûr qu'il y a des... On veut publier chaque année des à la fois des écrivains confirmés et des écrivains nouveaux. C'est très important pour nous, Boréal, de laisser la place et la parole aux jeunes écrivains et aux nouveaux venus, ce qui n'est pas facile pour eux. Mais non, on ne se donne pas de quota précis tout en essayant de garder cette diversité. Vous voyez que le Boréal aussi est une maison très diverse. Il y a plusieurs membres au comité éditorial, donc il n'y a pas une esthétique boréale précise, mais c'est divers auteurs, souvent dans diverses familles esthétiques ou intellectuelles. C'est très important pour nous, cette variété également.
C'est ça, beaucoup de collections.
Oui.
Alors, on pourrait se lancer, on pourra pas parler de tous les livres qui vont sortir en janvier, février, jusqu'en mars, même juin. Mais oui, on peut quand même s'attarder à quelques valeurs sûres et des recrues de valeurs également.
Absolument, oui.
Et si on parlait de « Les enfants de chienne » de Nicolas Delisle-Lheureux, un auteur que je ne connais pas du tout.
Écoutez, il a publié déjà, il y a une dizaine d'années, un premier roman. C'est son deuxième roman, mais son premier au Boréal. Pour moi, ça fait partie des écrivains montants, là, des gens qui apparaissent et qui s'imposent sur la scène littéraire. Les enfants de chienne racontent la vie d'un trio d'amis, d'adolescents, qui vivent dans un village de la Haute-Côte-Nord. Vous savez, un de ces villages qui sont entourés de forêts. Il y a un seul cordon ombilical qui relie ce village au reste du monde. C'est la route 385 qu'on appelle la gourmande, parce qu'elle prend des vies régulièrement. Donc, il y a ce sentiment d'enfermement chez ces jeunes et aussi d'étouffement. Le village est gouverné depuis toujours par la même famille de potentats locaux. Donc, pour des trois adolescents, c'est extrêmement étouffant et c'est ce rêve de vivre et de pouvoir échapper à ce huis clos qu'est leur village. Et la façon dont Nicolas Delisle-Lheureux décrit cette atmosphère, décrit également l'étouffement causé par cette distance et ses rêves d'ailleurs est vraiment merveilleusement rendu dans le roman. Trois adolescents, un pacte d'amitié qui va éclater bien sûr à la fin d'adolescence et le parcours de chacun qui vont aller dans des directions différentes, mais toujours comme une force gravitationnelle ces moments essentiels qu'ils ont vécu à l'adolescence qui va gouverner leur vie sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, une grande finesse dans la description de la psychologie des personnages, mais surtout, c'est un travail d'écrivain. C'est à travers le style, le rythme des phrases, la richesse de son écriture que tout ça est rendu.
Nicolas Delisle-Lheureux, qui est aussi travailleur communautaire à Pointe-Saint-Charles. Donc,
oui.
Les enfants de chienne en librairie le 22 février.
Oui.
Maintenant, on y va avec une valeur sûre. Enlève la nuit de
Oui.
Monique Proulx, très attendue à chaque fois.
Bien sûr. Monique Proulx travaille lentement, mais très régulièrement. Et donc, c'est tous les 5, 6, 7 ans, on a un nouveau roman. Et c'est quelqu'un qui peaufine ses textes, qui polit, qui peaufine. Mm-hmm. Et également, qu'il y a cette, c'est quelqu'un que j'ose dire métier, mais c'est plus que du métier, c'est vraiment d'inspiration aussi pour donner ces romans tellement frappants et attachants. Cette fois-ci, elle est allée chercher un personnage de son précédent roman qui s'appelle « Ce qui reste de moi », mais c'est pas du tout une suite. C'est simplement que pour les gens qui n'ont pas lu le précédent roman, ils s'en rendront même pas compte. Il y avait ce personnage de jeune homme d'une communauté ultra-orthodoxe ici à Montréal qui décide de quitter, de partir. Et donc, c'est l'histoire de ce jeune homme qui, à 20 ans, se retrouve tout neuf dans un monde qui lui est parfaitement inconnu, qui est le Montréal contemporain. Il apprend une nouvelle langue et il découvre, bien sûr, la vie dans toutes ses aspects. Et il commence, bien sûr, au bas de l'échelle, dans la rue, avec les itinérants, et peu à peu se fait une place, se fait un nid dans cette société avec ses triomphes sur la langue, ses déconvenues sentimentales ou professionnelles, mais surtout c'est qu'on voit le Montréal et le monde d'aujourd'hui à travers un regard neuf, candide. Donc ça nous permet nous-mêmes de voir notre monde de façon différente et voir comment son Marcus, son protagoniste va se construire une vie, mais pour surtout se construire du sens. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire de... Comment on peut réconcilier les diverses communautés dans une ville comme Montréal, où on a l'impression que c'est chacun pour soi et chacun s'enferme de plus en plus dans son silence ou dans ses convictions. Donc, c'est un jeune homme tout frais, au regard tout neuf, qui vit dans le Montréal d'aujourd'hui et qui veut vraiment trouver une manière de réconcilier toutes ces forces-là qui vont dans toutes les directions, comme on le vit nous au quotidien. Donc, et bien sûr, c'est Monique Proulx, donc c'est-à-dire que c'est une langue extraordinairement riche. C'est Marcus lui-même qui vient d'apprendre le français, qui apprend le français, qui nous raconte l'histoire. Donc, c'est lui pour lui l'occasion de jouer comme un enfant là, qui découvre les Legos là, avec la langue. C'est la façon dont Monique Proulx le rend. C'est vraiment très beau. Très attachant et très émouvant aussi. Il y a cette...
Vous l'avez lu, là?
Ah, oui. Wow. J'ai lu tout ça, là, ouais. Oui, bien sûr, oui.
Vous êtes privilégié.
Oui,
Enlève
oui,
la nuit, très beau titre,
oui.
Et ça sort le 15 mars.
Oui.
On poursuit avec Catherine Genet, qu'on oui. connaît comme journaliste culturelle.
Oui, absolument. Écoutez, c'est un roman, mais c'est un roman qui est basé sur la vie d'une personne vraie, qui vit toujours, d'ailleurs.
Ah oui?
Oui, absolument. C'est la chanteuse Guylaine Guy.
Oui.
Qui avait une sœur qui s'appelait Colette Bonheur, qui est décédée il y a assez longtemps. Mais Guylaine Guy vit toujours, malheureusement, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Mm-hmm. Mais Catherine Genet avait eu le temps d'interviewer il y a quelques années, de faire de nombreuses entrevues avec elle. Et plutôt que de construire une biographie classique, là, elle a décidé de faire entendre la voix de Guylaine Guy. C'est elle, c'est Catherine Genet qui fait revivre la voix de Guylaine Guy, qui nous raconte tout son parcours.
Donc ça devient un roman?
C'est un roman.
D'accord.
C'est un roman sur une base biographique, mais ça donne la liberté de la romancière, non pas d'inventer des épisodes qui n'ont pas existé, mais de rendre dans les mots de Guylaine Guy,
ouais.
Avec cette subjectivité. C'est l'histoire racontée par Guylaine Guy. Donc, cette Guylaine Guy est née à Montréal à la fin des années 30. Elle a grandi sur le plateau Mont-Royal. Sa mère avait une école de diction ou de jeu où il y avait toutes les enfants de la bonne bourgeoisie d'Outremont allaient apprendre à monter sur scène et tout. Et il y avait ces deux filles, Colette et Guylaine, qui étaient Guylaine Chaillé, en fait, c'était leur nom véritable.
Alors, elles ont toutes les deux changé de nom, Guylaine
oui,
Guy ainsi que Colette Bonheur.
Pour Bonheur. Pourtant, c'est un destin absolument tragique, comme on le découvre dans le livre. Mm. Et Guylaine Guy, qui a eu des chances, des moments extraordinaires dans sa vie, elle était à Montréal, elle faisait le Faisan Doré avec Dominique Michel et tous ces gens-là à l'époque des cabarets. Jacques Normand était l'animateur. Donc, c'était pour une toute jeune fille, dans un milieu assez interlope, c'était déjà toute une aventure. Et ensuite, elle était Charles Trenet l'avait remarqué quand il est venu à Montréal. il était enthousiaste pour son talent. Il a dit « Viens avec moi en France, je vais écrire des chansons, etc. etc. » Elle est allée en France. Charles Trenet a écrit des chansons pour elle. Elle a fait sa première partie à l'Olympia. Mais Trenet, en fait, s'est servi d'elle aussi parce qu'il y avait une vie privée qu'il ne voulait pas révéler à l'époque. Donc, il lui a servi de paravent cette année assez vite.
Il y a eu plusieurs paravents, M. Trenet.
Oui, c'est ça. Elle était un d'eux, mais elle, ça n'a pas duré trop longtemps. C'était pas fait pour elle, ce genre de je pense, d'ambiguïté, de mensonge. Mais elle est quand même restée à Paris. Ensuite, c'est Louis Armstrong qui l'a entendu chanter dans dans une cab de Saint-Germain-des-Prés et qui lui a demandé de faire sa première partie à l'Olympia également. Donc, et elle a également été dans la création d'une comédie musicale à Broadway de Cole Porter, la première mondiale, où elle était la doublure de la vedette. Donc, elle c'est une jeune femme d'ici qui était à la fois dans le showbiz ici, à Paris et à New York.
Puis on la connaît beaucoup moins qu'Alice Roby, là, Guylaine
Guy. Oui, absolument. Oui. Mais c'est également un destin, un peu semé de surprises. Ensuite est arrivée la mode du yéyé et tout. Donc, c'est pour elle, c'était difficile de continuer à s'imposer. C'était le cas de Monique Lérac, par exemple, ou de toutes ces femmes de cette génération, où il y avait tout d'un coup un changement très, très marqué dans les goûts. Donc, ce qu'elle a fait, Guylaine Guy, c'est de revenir à ses premières amours qui étaient les arts visuels. Elle était peintre, elle était sculpteur. Et elle est restée en France, elle vit toujours là en ce moment. Mais c'est surtout de voir comment une femme douée, une artiste au fond de l'âme, réussit à se frayer un chemin dans des circonstances difficiles.
Alors, M. Bernier, c'est tout le temps qu'on a sur la route avec Bachot de Dany Laferrière.
Magnifique. Oui.
C'est le 5 avril que ça va être disponible. Et La princesse du rythme, dont vous venez nous parler, là, l'œuvre de Catherine Genet autour de Guylaine Guy, c'est en librairie le 29 mars 2022. Mais on va avoir l'occasion de s'en reparler de toutes ces belles parutions parce
que
c'est toujours passionnant. Puis vous êtes passionné.
Oui, absolument. Le Bachot est fabuleux. Dany Laferrière s'affirme enfin comme peintre.